Bonjour. Beauté à tout prix, cela arrive. En tout cas, on observe des gens qui sont très clairs de teint au visage et très sombres sur l'autre partie du corps. Il y a des gens qui disent, comme pour commenter ça, Fontana et Longhi Kokana Makolo produit des beautés à l'hydroquinone, on en parlera tout à l'heure. Et puis, lorsque la détention préventive et les mandats d'arrêt provisoire est en dépassement, quelles sont les voies de recours que peuvent utiliser les membres de famille des personnes détenues? Nous aurons les réponses dans ce magazine avec nos experts habituels, parce que ça peut concerner tout le monde, tous ceux qui nous suivent, lorsque l'on constate que de 48 heures à 8 jours, voire 15 jours, ce délai passe des semaines à des mois, voire... C'est presque confondu à des peines d'emprisonnement. Dans le Maniema, le Fonds social de la République est en train d'approvisionner une dizaine de zones de santé en médicaments. C'est en moyenne une tonne par zone de santé. C'est un ouf de soulagement pour ces zones de santé qui étaient en rupture des stocks. Et puis enfin pour terminer, nous nous rendrons à Inga, nous sommes dans la province du Bas-Congo, la localité qui abrite l'un des plus grands barrages hydroélectriques de l'Afrique et du monde d'ailleurs. Au-delà de l'Eldorado qu'on pouvait espérer, les populations ne vivent pas tout proche des étoiles. L'Oncocercose sévit dans cette localité, nous ferons le point avec notre envoyé spécial sur place, Jody Keshama. Voilà, vous savez presque tout, enfin en titre si vous voulez, en petit flash. Nous allons rentrer dans les détails avec vous, avec nos experts. Participez au magazine OKP Action, appelez au 081 890 68 90 avec un réel plaisir que nous vous retrouvons ce matin. Vous nous avez vraiment manqué ce week-end.
OKP à Kinshasa sur 103.5 FM.
Et voilà, rebonjour. Les conditions de détention dans les prisons en République démocratique du Congo sont inacceptables. Plusieurs problèmes sont à relever, il y a des déficiences graves, dont l'alimentation, l'hygiène, les soins de santé. Tout cela transforme nos prisons en des véritables mouroirs. On a longuement parlé vendredi dernier de ces sujets à l'occasion d'une émission spéciale consacrée aux droits humains. Nous étions dans les prisons, nous avons essayé de franchir les grilles des certains établissements pénitentiaires à travers la RDC. Aujourd'hui, nous allons mettre en profondeur la question plutôt de détention préventive et du mandat d'arrêt provisoire. La loi prévoit pour la détention préventive 48 heures et pour le mandat d'arrêt provisoire de 8 jours à 15 jours. Mais il n'est pas exagéré d'affirmer qu'en certains endroits, être condamné par un tribunal, parfois pour de faits banals, on peut l'être à 12 mois ou 5 ans d'emprisonnement. Cela équivaut à une condamnation à mort, tant les risques de mourir en prison sont énormes. Et lorsque les délais du mandat d'arrêt provisoire ou de la détention préventive sont en dépassement, que peut faire la personne concernée, ou du moins les membres de famille qui sont au courant, qui connaissent cette loi? On va en parler tout à l'heure. Maître Dominique interviendra en direct de Kindu, mais on fait le point avec Nicole. Nicole, bonjour.
Bonjour Alter.
Bien, merci. J'espère que le micro est finalement ouvert. Je crois, on est d'accord? Oui, très bien. On fait signe que oui. Alors, on part d'un constat, Nicole. Les délais des détentions préventives et des mandats d'arrêt provisoire sont largement dépassés. Vous avez continué et poursuivi l'enquête dans le monde carcéral. Quels sont les premiers éléments à votre possession en ce qui concerne les mandats d'arrêt provisoire et tout le reste?
Bon, Walter, il faut reconnaître que chaque ville en République démocratique du Congo a sa particularité en ce qui concerne la détention préventive. Et avant d'aller plus loin dans le sujet, j'aimerais que vous écoutiez l'analyse faite par Luc Enkinbrandt du droit de l'homme sur la détention préventive pendant qu'il était à Kananga, précisément à la prison de Kananga.
Il y a plusieurs problèmes qui se posent dans cette prison. Un des premiers problèmes est qu'il y a énormément de détenus qui sont en détention préventive. Et certains de ces prévenus et n'ont pas été jugés. Il y en a un qui attend depuis 3 ans, par exemple. Un autre depuis plus de 10 mois. Hein, nous en avons même vu certains, hein, qui, semble-t-il, pour un fait très bénin, hein, circulation sans pièce d'identité, seraient là-bas depuis près de 10 mois. Nous espérons que des programmes de réhabilitation de la justice et du système pénitentiaire pourront voir le jour dans les prochains mois.
Voilà, on vient d'entendre Monsieur Luc Heckenbrandt, qui est fonctionnaire de la MONUC à la section de droit de l'homme. Il était à l'époque en poste à Kananga, il faut dire qu'il est depuis un certain temps en poste à Kinshasa, pour question de précision. Mais les problèmes qui se posent avec Akite à Kananga sont presque les mêmes. Dans la plupart des prisons dans le pays, il y a lieu de noter Nicole, par exemple, qu'ici à Kinshasa, nombreux sont ceux-là qui se sont transférés au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa, ex-prison de Makala, pour des faits vraiment bénins du tout.
C'est vrai Walter. Nous avons évoqué cette question-là avec un juriste qui a l'habitude justement de fréquenter le CPRK, Maître Paulin Mukendi. Il reconnaît qu'effectivement, que dans bien des cas, des détenus sont en détention préventive pour un temps qui dépasse ce qui devrait normalement se faire officiellement par l'État congolais. Mmh. Et il précise même à quoi est due cette durée souvent longue de détention préventive.
Oui, ça c'est vrai. Parce que il y a quelques années, une enquête a été menée où on a pu constater que, par exemple, dans les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa, il y a eu plus de détenus que de condamnés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui sont détenues alors qu'il n'y a pas encore un jugement définitif intervenu pour régler leur situation. Alors, ceux qui ont bénéficié d'un jugement ne sont pas du tout nombreux. Donc, ça c'est un problème de réel. On peut trouver la réponse à cette question-là au fonctionnement même de notre appareil judiciaire. Vous savez que notre justice a beaucoup de problèmes. Et on a des magistrats qui ne sont pas motivés. Le nombre de magistrats aussi est réduit. Alors, ils se retrouvent avec plusieurs dossiers. Ils sont submergés par le travail et ils ne sont pas motivés. Alors, dans ce genre de conditions, bon, évidemment, ajouté à cela, il y a peut-être d'autres raisons. Et dans ces conditions-là, je crois qu'il est tout à fait normal qu'on assiste à des choses comme ça.
Mais quelle est alors la durée maximale de détention d'un prisonnier en RDC?
Là, nous dirons que, bon, au niveau du parquet, il y a d'abord, on peut mettre quelqu'un en détention sous mandat d'arrêt provisoire, qui a une durée de 5 jours. Et après, il faut qu'on présente la personne détenue devant le juge pour que le juge puisse prendre une ordonnance de détention préventive qui a une durée de 15 jours, je crois. Et après les 15 jours, si l'enquête continue toujours et que le magistrat n'a pas fixé l'affaire devant le tribunal, à ce moment-là, le magistrat du parquet va encore présenter la personne devant le juge pour que le juge puisse prendre une ordonnance de confirmation, comme on dit. Cette ordonnance a une durée de 30 jours, mais renouvelable.
Et voilà, on vient d'entendre Maître Mukendi qui expliquait déjà quelques aspects techniques de la procédure d'organisation des compétences judiciaires. Je confirme ici qu'il y a beaucoup plus de détenus que de condamnés au CPRK. Vous vous souvenez que pendant l'émission de vendredi, lorsqu'il intervenait en direct, le directeur de la prison, M. Dido Kitunga, nous avait donné une invitation. Nous nous y sommes rendus et nous avons constaté que sur les 2865 détenus pendant son briefing, si vous voulez, il y a au moins 1537 dossiers qui ne sont pas encore fixés. Ça veut dire plus de la moitié des dossiers au niveau du CPRK, c'est des détenus qui ne sont pas encore passés devant un juge, et c'est donc des dossiers qui traînent, alors que il voudrait qu'on désengorge les prisons. Il y a 1537 dossiers de personnes détenus qui ne sont pas encore passés devant un juge. Ça justifie notamment la surpopulation que l'on remarque à la prison de Makala, au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Donc ça, c'est une situation assez terrible, et même devant la ministre des Droits Humains, les détenus cherchaient à avoir célérité dans les deux choses. Ce n'est pas encore notre dossier spécial Makala à l'issue de cette visite. On va proposer ça aux auditeurs très prochainement. J'ai frappé le bras du micro, excusez-moi. Pour participer à Okapi Action, vous faites le 081-890-68-90. Nicole, je reviens à ce que Maître Moukeli disait tout à l'heure. Il a constaté, il a essayé de justifier cela, disant qu'il partait du constat que des magistrats sont mal payés, ils sont submergés par les dossiers, ce qui les pousse à mal faire leur travail. Un problème que on devrait prendre avec beaucoup de considération au niveau des instances qui décident, notamment le ministère de Justice en premier. Pour revenir à vous, Nicole, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a détention préventive. Je dois dire ici que je n'ai pas été autorisé à entrer avec mon micro dans les salles. J'ai laissé mon sac dans la voiture et que quand on parlait avec les prisonniers, j'étais escorté. J'avais littéralement des surveillants sur mes fesses pour m'empêcher de parler avec les détenus. Donc, c'était très, très difficile. Mais Nicole, quand même, on peut poser la question. Est-ce que vous avez pu rencontrer quelqu'un qui a déjà connu une situation de détention préventive prolongée, surprolongée, et qui a pu peut-être raconter les circonstances dans lesquelles ça s'est passé?
Eh oui, Walter, oui. Nous avons pu dénicher cette personne-là. Lui a eu de la chance d'être libéré, je dirais, in extremis, mais ça n'est fallu de peu. Hein. Je n'en dis pas plus, je préfère vous laisser suivre son témoignage, mais précisons tout de même, Walter, il n'est pas avocat. Il n'a jamais fait le droit, mais il nous définit à merveille la détention préventive ici au CPRK et ensuite nous fait son propre témoignage en détention préventive.
Bon, en fait, la détention préventive, c'est une décision du parquet et qui place quelqu'un qui a été, qu'on appelle suspect, qu'on a arrêté. Cette personne est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Ce mandat d'arrêt provisoire est signé par le magistrat du parquet, donc le procureur, et la personne va en prison en attendant que le dossier soit fixé au tribunal pour qu'il puisse comparaître.
Vous-même, vous avez été en détention préventive. Comment cela s'est passé concrètement pour vous?
Bon, moi j'ai été arrêté par le service des renseignements militaires. J'ai été transféré à l'ANR où j'ai passé 14 jours. L'ANR m'a transféré au parquet militaire, ancienne cour d'ordre militaire. Et un jour après, j'ai été amené à la prison de Makala. Alors, la prison de Makala, en principe, on doit être présenté devant une chambre de conseil. Hein. La chambre de conseil confirme régulièrement la détention ou alors présente le prévenu devant le tribunal pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Ça, c'est ce qui est normal. Pour mon cas, j'ai été placé en détention préventive par la cour d'ordre militaire et j'ai passé 9 mois et demi sans avoir été présenté devant le juge. C'est alors que le chef de l'État, de Lubumbashi, a décidé à envoyer son conseil spécial en matière de sécurité et de dire au procureur militaire de lever ma détention. Voilà comment je suis sorti. Je n'ai jamais obtenu une fiche de libération comme les autres. Je suis là comme ça. Voilà comment fonctionne la justice au Congo.
Monsieur Siluanda, défenseur des droits humains, qui a passé au moins 9 mois en détention préventive au CPRK. Il a été libéré, comme on l'a dit tout à l'heure, in extremis. Voilà, c'est des situations qui vous concernent. Je profite. Permettez-moi, chers auditeurs, parce que je l'ai promis, de dire bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à la prison de Makala, parce qu'ils nous suivent tous les jours au CPRK, au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. L'autre fois, quand nous sommes arrivés, nous ont très bien accueillis. Merci beaucoup de l'accueil que vous nous avez réservé et courage, tenez bon, que la procédure évolue et que justice soit faite. On va y revenir tout à l'heure, après ces clins d'œil à nos amis qui nous suivent au CPRK à Makala. Il y a d'autres prisonniers qui nous suivent peut-être à travers la République démocratique du Congo et le monde. Nous aurons des précisions avec Maître Dominique tout à l'heure. Vous préparez déjà vos questions. C'est le 081-890-6890 si vous nous appelez la République démocratique du Congo. C'est le 00243-81-890-6890 si vous nous appelez du reste du monde parce que vous nous écoutez en direct sur Internet. Vous pouvez envoyer aussi des questions sur action@radiotapi.net. On se retrouve dans quelques instants. Il est temps de dire au revoir à Nicole.
Au revoir Walter.
Okapi Action, le magazine des proximités sur Radio Okapi. Nous sommes aujourd'hui en train de parler pour ce premier sujet de la durée de la détention préventive et du mandat d'arrêt provisoire à partant du constat que dans beaucoup de cas, dans notre justice en République démocratique du Congo, ces délais sont très très largement dépassés. Nous en avons eu la preuve vendredi dernier lorsque nous visitions les centres pénitentiaires et des rééducations de Kinshasa, ex-prison de Makala, où il y a beaucoup, beaucoup de cas, dont des détenus par rapport aux prisonniers. Pour commenter cette question de droit, des procédures judiciaires ou pénales, nous avons en ligne depuis Kindu, maître Dominique Kamwandu. Bonjour maître.
Bonjour Walter.
Est-ce que vous pouvez d'abord fixer nos auditeurs sur la durée de la détention préventive et du mandat d'arrêt provisoire?
Merci beaucoup Walter. D'emblée, je vais préciser que sur le plan de la législation congolaise et des instruments juridiques internationaux, la liberté est le principe et la détention l'exception. C'est-à-dire que tous ces instruments juridiques internationaux réglementent et garantissent la liberté des individus. En ce qui concerne la question sous examen, je vais d'abord distinguer ce qu'on appelle la garde à vue, c'est-à-dire lorsque une personne a commis une infraction ou elle a été trouvée en situation de flagrance, elle peut être appréhendée et gardée par la police. Et la durée de la garde à vue est de 48 heures. Et pendant ces 48 heures, l'OPJ fait ses enquêtes et transmet et la personne et le dossier au niveau du parquet. Alors c'est au niveau du parquet qu'intervient la notion de la détention préventive. Le mandat d'arrêt provisoire, c'est le document ou l'acte par lequel l'officier du ministère public place une personne en détention. Et pour placer une personne en détention, ça ne se fait pas de manière arbitraire, on doit respecter les conditions légales prévues par le code de procédure pénale.
Quelles sont ces conditions?
Et en ce qui concerne la durée,
oui.
Dans un premier temps, on précise que la durée du mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire les documents décernés, est de 5 jours. Mm-hmm. Donc, à l'issue des 5 jours, si l'officier du ministère public n'a pas terminé son instruction pour transmettre les dossiers au niveau du tribunal afin de le faire fixer, il peut présenter la personne devant le juge en chambre du conseil pour demander la prolongation de la détention. À ce moment-là, le juge va prendre une ordonnance de mise en détention préventive qui peut avoir une durée de 8 jours. Mmh. Et au-delà des 8 jours, on représente la personne. À ce moment-là, le juge peut soit ordonner sa mise en liberté, ou soit, si les besoins de l'enquête le nécessitent, prolonger encore la détention pour une durée de 15 jours, et ainsi de suite au fur et à mesure qu'avance la procédure.
Mais maître Dominique, on constate quand même qu'il y a des gens qui sont, pour prendre le cas du centre pénitentiaire de rééducation du Kinshasa, il y a des gens... Je donne les chiffres exacts donnés par la direction de ce centre pénitentiaire, 1537 cas de dossiers non fixés, c'est-à-dire des gens qui attendent de passer devant le juge, et c'est en moyenne plus de 2 mois qui sont là. Il y en a qui ont fait des années d'ailleurs.
Effectivement, ça c'est une irrégularité qui doit être corrigée. La plupart des cas comme ça arrivent lorsqu'il n'y a pas eu suivi des dossiers et que le magistrat qui a sur sa table beaucoup de dossiers, prête plus d'attention à certains par rapport à d'autres pour des raisons qu'on ne peut pas évoquer ou qu'on connaît, que nous ignorons. Et cela arrive aussi soit par négligence des personnes détenues elles-mêmes ou par méconnaissance des procédures légales, parce que lorsque une personne a été placée en détention et que celle-ci n'a pas été régularisée conformément à la procédure, elle peut saisir directement les juges pour demander sa mise en liberté. Cela est prévu même par la constitution de transition qui nous régit à ce moment.
Mais dès lors que ces personnes sont détenues, elles ne peuvent pas sortir, elles ne rencontrent pas les magistrats qui les ont mis en détention préventive, elles ne rencontrent pas les, peuvent pas arriver au tribunal, il y a très peu de comparutions. Dans ce cas, est-ce que les proches de ces personnes qui sont en prison peuvent saisir le tribunal?
Bon, en matière de justice, il y a un principe qui dit que nul ne plaide par procureur, c'est-à-dire on ne peut pas saisir le tribunal pour une action qui ne vous concerne pas directement.
Oui.
Alors, ce qui est mieux à faire, c'est que ces personnes peuvent entrer en contact avec leurs membres de famille qui sont en détention, demander à ceux-ci de leur donner un mandat ou de les mettre en contact avec un avocat qui peut, en leur nom, saisir le tribunal pour demander que leur détention soit régularisée ou alors qu'ils soient mis en liberté. Ou alors de faire des démarches au niveau du parquet pour que leur dossier soit fixé et ainsi leur sort soit connu une fois pour toutes si elles doivent être condamnées ou acquittées.
À votre avis, Maître Dominique, pour des gens qui sont déjà enfermés, qui sont en détention, quelle serait la procédure la meilleure? C'est de demander aux détenus, que les détenus demandent à leurs proches de les mettre en contact avec un avocat qui peut faire le suivi du dossier, c'est cela, Maître?
Effectivement, eux-mêmes peuvent écrire de la prison. Ils peuvent, au moment des visites, on peut leur donner un papier, un stylo. Ils peuvent écrire pour saisir les juges et faire viser cette lettre par les directeurs de la prison. Ainsi, leurs membres des familles peuvent amener cette lettre devant les juges et saisir les juges pour que celui-ci statue sur leur sort, sur leur mise en liberté.
Mais est-ce que vous trouvez que le fait que des procureurs disent qu'ils sont débordés des dossiers, parfois qu'on dit qu'ils sont mal payés, que ça justifie vraiment de laisser traîner des gens en prison, entre guillemets, aussi longuement comme ça?
Bon, je pense peut-être le fait de dire que ils ont beaucoup de dossiers peut faire que certains dossiers ne soient pas traités dans les délais requis par la loi. Mais il y a quand même des limites acceptables. On ne peut pas comprendre que parce que on a trop de dossiers qu'on l'on garde sur son bureau avec une personne en détention, un dossier pendant 6 mois, 8 mois, sans régulariser la procédure, sans présenter la personne devant les juges pour que celui-ci puisse statuer sur sa liberté. Parce qu'au-delà du délai, si la régularisation n'a pas été faite, cela devient pure et simplement une détention illégale. Et devant une situation comme ça, la personne doit être mise en liberté parce que la liberté est le principe. En ce qui concerne les conditions de travail des magistrats, vous savez, nous savons tous qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Et d'ailleurs, c'est la situation générale au niveau du pays, mais cela n'est pas une raison pour que les droits et libertés des citoyens soient bafoués et foulés aux pieds.
Maître Dominique, alors allons au-delà. Dès lors qu'une personne a passé, par exemple, plusieurs mois, disons 6 mois par exemple, en détention préventive, entre guillemets, parce que c'est pas la durée de la détention préventive. On connaît la durée, c'est 48 heures. Bon, par impossible, et c'est une triste réalité ici, plus de 2 jours, plusieurs mois en détention préventive, et que cette personne finalement vient rencontrer les juges, et que après enquête, il s'avère quand même que cette personne est responsable des actes qu'on lui reproche, qu'il y a une condamnation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va prendre en compte les mois passés à prison, ou comment ça se passe au niveau de la procédure?
Merci beaucoup, Alter. Je vais d'abord préciser que la détention préventive est à distinguer de la garde à vue dont le délai est de 48 heures. Et le mandat d'arrêt provisoire a d'abord une durée de 5 jours et on peut la prolonger selon les demandes de l'officier du ministère public.
Tout à fait.
Mais en ce qui concerne la condamnation, lorsque une personne a été détenue préventivement et qu'en fin de compte, elle a été jugée est condamné, le temps passé en détention doit être retranché de la peine fixée ou prononcée par les juges. Si par exemple la personne a été condamnée à 2 mois de servitude pénale, c'est-à-dire à 2 mois de prison, et qu'elle a déjà passé 1 mois de détention, il ne lui reste plus qu'1 mois pour purger sa peine. Et si, par exemple, la personne a été condamnée à 4 mois de prison et qu'il a déjà fait plus de 4 mois ou 4 mois en prison, en principe, au moment du prononcé de la décision, on doit la mettre en liberté parce que sa peine est déjà purgée.
Maître, alors, si une personne a passé 9 mois ou 6 mois détention préventive et qu'elle est condamnée à 4 mois?
En ce moment-là, on la libère immédiatement, elle n'a plus de raison de continuer à rester en prison.
Bien sûr, elle aura passé,
une partie du séjour qu'il a passé en de manière irrégulière en détention. En principe, on devait l'indemniser.
On devrait l'indemniser.
L'État devait l'indemniser.
Oui, tout à fait. Nous aurons un témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui a subi ce genre de choses. Est-ce que si le témoignage est prêt, nous allons écouter cet auditeur qui vient de nous appeler.
Bon, mon père, il y a un peu de Bitsumba, parce qu'il y a Bitsumba, il y a une 53e brigade, il y a un côté à Zamba Équateur, à Bolomba. Il y a un peu de bon, le problème, c'est qu'il y a un soldat qui a été en Massachi, et puis, commandant mususu ayeko pesa ordre babo masodo abeta ki muninga masasi wango bali nangana muminiti wana azalaka te sikoyo bayeko kanga lokwa basodana sodana bazalaki basoda ya fleton ya mobali na ngai ntango bato ya birode kutu nde bato ya birode balongwaka baki osangisa bango kuna ngai nayebaka te ngai navandi kaka bwe nasutuka après une semaine bazoya lisanga mobali na ngai azawa na GLM. Après un jour, on a quitté notre tombeau en écran. Balamoko, Bazuye, Bakien, Naé, Bamati, Avion, Bakien, Naé, Bassambi, Saé, Awa, Nambanda, Kate, Bassala, Odian, Sébique, Naé, Awa, Té. Té, bah, condamné à mort, sans avocat, donc à Sambaka, Kandengue, Wana. De l'Opa, de l'autre, Naé, qui vient, Nazola, Nana, Radio, Aké, Bassala, Maramabas, de Bakken, Jonian, Yaonga, Nina, Saé, donc, souci, Naé, Bassala, recours, pour la dossier, Mobile, Nangal.
Maître Dominique, vous venez d'entendre ce témoignage d'une femme voilà, qui est en train de vraiment suivre l'émission, elle est en Bandaka. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil à cette femme qui vient de nous appeler?
Merci beaucoup Walter, si je comprends très bien, elle parle du cas de son mari qui a été arrêté et condamné. Elle demande la possibilité de faire le recours, si c'est possible.
Le mari avait été condamné sans assistance judiciaire.
Oui, effectivement. Dans le cas d'espèce, m'en vais vous dire que si je comprends très bien, son mari a été condamné sous l'emprise de l'ancienne loi qui mettait en place la cour d'ordre militaire qui a été dissoute. Et selon la procédure devant la cour d'ordre militaire, surtout dans les situations où les condamnations ont été prononcées en situation opérationnelle, les décisions de la Cour n'étaient pas susceptibles d'appel. Alors, il est difficile de pouvoir régler cette question-là sous l'emprise de la loi actuelle. Si la personne a été condamnée, ce qu'il y a à faire maintenant et qu'elle n'a pas encore été exécutée, parce que j'ai suivi que la personne a été condamnée à la peine capitale. Si la personne n'a pas encore été exécutée, souhaitons qu'elle pourra être récupérée dans le cadre de la loi sur l'amnistie. Mais en ce qui concerne les recours judiciaires, au moment où elle a été condamnée, les textes ne prévoyaient pas les recours, et les textes actuels prévoient les recours, mais les lois de procédure sont d'application immédiate, elles ne rétroagissent pas. On ne peut pas, pour l'instant, appliquer ces lois aux situations passées avant leur entrée en vigueur.
Donc, toutes ces personnes condamnées à mort, il y en a nombreuses d'ailleurs. Même en CPRK, n'attendent que l'application de la loi sur l'amnistie. C'est ce qu'on peut retenir, Maître Dominique.
Effectivement, c'est le seul recours qui reste pour le moment, parce qu'on ne peut pas leur appliquer la loi actuelle, parce qu'elle ne peut pas rétroagir.
Voilà, nous prévoyons un sujet sur l'amnistie, l'application de cette loi, ou les procédures en cours. Où est-ce qu'on en est avec la loi sur l'amnistie? Qui sera concerné? J'en passe. C'est un sujet qui nous préoccupera un bon moment, le temps que nous récoltions suffisamment de données et de matière à ces sujets. Maître Dominique, je rappelle que vous intervenez en direct à partir de Kindu. Vous intervenez dans ce magazine en votre qualité d'expert pour Avocats sans frontières Belgique, qui, rappelons-le, organise une boutique de droit qui permet même aux citoyens d'aller bénéficier gratuitement des conseils judiciaires en matière de droit. Maître Dominique, merci beaucoup d'être intervenu et bonne suite de mission à Kindu.
Merci beaucoup, Alter.
Au revoir. Ok, Pietion, nous allons poursuivre ce magazine en nous rendant sur un autre coin de la République démocratique du Congo pour continuer à vous permettre de suivre le Congo et la vie telle qu'elle s'y mène. C'est dans quelques instants.
Okapi.
Okapi à Matadi sur 102 FM.
Vous nous écoutez à Matadi, votre attention, votre fidélité nous donne des ailes et du zèle pour mieux faire avec vous. C'est une question que nous allons aborder. Vous le savez, la province du Bas-Congo abrite notamment l'un des plus grands barrages d'Afrique, barrage hydroélectrique, c'est le barrage d'Inga, barrage sur lequel sont rédigés plusieurs projets faramineux pour exporter l'énergie électrique de la République démocratique du Congo vers le sud, vers le nord, vers quel autre pays? Et il y a beaucoup de projets par rapport à ça jusqu'à Zambie. Mais alors nous avons cherché à savoir comment vivent les populations autour de ce grand barrage d'Inga. Est-ce que, puisque ils ont Motoya Lotili, qui c'est comme ça qu'on dit à Lingala, je pense, juste à côté, est-ce qu'ils ont les étoiles à portée des yeux, est-ce qu'ils ont l'électricité tout le temps? Ça c'est une autre question. Mais lorsque nous étions en train de chercher à savoir cela, notre confrère a d'abord été frappé par une situation, c'est que cette zone est une zone endémique, donc au CERCOS. Il y a beaucoup de gens qui sont frappés par cette maladie. Et on va commencer par là, avant, prochainement, d'entrer dans les détails des questions électriques. La santé d'abord, n'est-ce pas? On est d'accord. Alors, pour en parler, nous avons Jody depuis ce site-là. Jody Kachama, bonjour.
Bonjour, Walter.
Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous situer géographiquement la localité de Inga?
Oui, la localité de Inga se trouve dans le territoire de Sekebanza, dans le district du Bas-Fleuve. C'est en fait une presqu'île située à 50 km au nord de Matadi, chef-lieu de la province du Bas-Congo. Alors ce camp compte une population estimée à 10 000 habitants, et c'est beaucoup plus les techniciens, les électriciens de la SNEL qui habitent cette localité, ainsi que leurs familles. Et puis la plupart travaillent à la centrale hydroélectrique d'Inga. Alors, à côté du camp Inga se trouve un village appelé Nganda Kinshasa. Alors, d'après les informations, c'est dans ce village qu'habitaient les agents de la société Safricas qui ont construit le barrage d'Inga pour la partie maçonnerie. Alors, certains membres de leur famille ils sont restés dans ce village, Nganda Kinshasa. Et puis, il y a quelques habitants des villages environnants qui sont venus occuper anarchiquement certaines maisons là. Donc, c'est des baraques, hein, ils vivent dans des baraques. Voilà un peu présenté la localité d'Inga.
Lorsque vous y avez marché, Jody Kachama, vous avez constaté que cette localité est frappée par l'oncocercose.
Oui, exactement. Inga est réellement une zone endémique à cause de la persistance dans cette région d'une maladie parasitaire appelée oncocercose. Alors, cette maladie touche une partie importante de la population dans cette localité.
Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les chiffres, les modes de propagation, l'état des lieux de cette maladie oncocercose?
L'oncocercose, comme on le dit si bien, est une maladie parasitaire qui est transmise par un moucheron appelé simili ou marangouin. Alors, les habitants de la localité Inga l'appellent Kikofia, c'est en Kikongo. Alors, lorsque cet insecte toute petite et toute noire vous pique, elle crée des microfilaires sur le corps. Mais jusque-là, des statistiques, il y en a pas, d'après le médecin, le docteur qui travaille au programme national de lutte contre l'oncocercose, il n'y a pas eu des éléments chiffrés pour déterminer le niveau de cette maladie.
Mais alors, je suppose que vous avez fait allusion au docteur Kalefou. Mais Jody Keshama, comment se développe c'est Kinkofia, c'est Marangwa?
Ok, d'après le docteur Kalefou du Programme national de lutte contre l'oncocercose, les Marangouins se développent dans des endroits où il y a des rapides. Donc ici à Inga, vous comprenez, il y a beaucoup de rapides. C'est un milieu favorable au développement du marangouin.
Ça se développe dans des cours d'eau, si tu veux.
Oui, dans des cours d'eau, là où il y a beaucoup de rapides. Et selon les données, même à Kinshasa, donc à Kinsuka, il se pourrait qu'il y ait aussi la présence de marangouin parce qu'il s'est... Tous les pierres, les branchages, et les marangouins dorment à 18 heures comme pour laisser la place aux moustiques, et ils se réveillent à 6 heures pour continuer leur besogne, voilà.
Oui, Jody, je vous conseillerais pour des raisons techniques de rester stationnaire, parce que quand vous bougez, nous avons des pertes de signal à votre niveau. Merci de le faire. Alors, quelles sont les conséquences sanitaires au niveau aussi social, voire économique, que vous avez pu observer par rapport à cette maladie?
Oui, comme conséquence sanitaire, cette maladie, l'oncocercose, provoque des démangeaisons sur tout le corps et pousse à s'égratter. Et des gales apparaissent sur le corps. Et les gens ont, vous verrez quelqu'un avec une peau tachetée, semblable à une peau de lézard ou une peau de léopard. Et après 15 ans d'exposition à la piqûre du marangouin, on finit par devenir aveugle. Et laissez-moi vous dire que j'ai été aussi piqué par le marangouin lorsque j'étais sur place à Inga, mais rassurez-vous, il n'y a pas eu de danger. Ah, alors, sur le plan social...
Oui, sur le plan social.
Oui, sur le plan social, pour éviter les piqûres du marangouin, les habitants du camp Inga sont obligés de porter souvent des chemises manches longues. Et ils doivent aussi mettre des bas, les enfants qui vont à l'école, ils doivent avoir tout le temps des bas pour ne pas être piqués par le marangouin.
Vous parlez de chaussettes.
Oui, des chaussettes. Ouais. Donc il faut bien se couvrir le corps pour ne pas être piqué. Alors sur le plan économique, c'est un facteur de pauvreté, un facteur de ralentissement de la production. Parce que la maman qui se rend au champ, qui est piquée tout le temps, elle est dérangée, elle ne peut plus travailler, donc elle est obligée de porter des chemises manches longues et de mettre des chaussettes. Et avec toute cette chaleur qu'il fait, alors vous voyez, c'est un facteur, vraiment un facteur de ralentissement de la production plutôt.
Et Jody Keshama, j'espère que désormais vous êtes à manches longues et que vous ne portez pas des shorts que des pantalons et que vous êtes bien couvert, hein.
Ben, ne vous en faites pas, je suis très bien couvert.
Déjà que vous portez des lunettes, là, il y a crainte. Bon, mais enfin, heureusement que vous nous avez rassurés. Je dis aux auditeurs que nous allons appeler tout à l'heure Dr Kalefou du Programme national de lutte contre l'oncocercose pour avoir un peu plus de détails sur comment se prévenir, sur ce qui est en train d'être fait pour soigner les gens, comment on peut faire. Pour l'instant, Jody Keshama, nous vous remercions beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations et vous souhaitons de poursuivre agréablement et avec succès votre mission d'envoyé spécial dans cette province. Et surtout, faites très attention à vous. Il ne faut pas que vous vous fassiez bouffer par les marangouins.
Non, ne vous en faites pas. Je suis à l'abri des marangouins. Merci et bonne journée, Walter.
Merci, Jody. À bientôt.
Okapi. Okapi à Matadi sur 102 FM.
Ok, action sur Radio Okapi, le deuxième sujet du magazine d'aujourd'hui concerne un état des lieux que notre confrère Jody Keshama a fait dans la localité de Inga, qui est une localité où l'oncocercose est, enfin, sévit et frappe les populations. Pour commenter cette situation, nous avons en direct Dr Kalefou. Dr Kalefou, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez au Programme national de lutte contre l'oncocercose. Vous avez, on a noté quand même l'absence des chiffres, des statistiques sur les nombres de personnes frappées par cette maladie. Est-ce que vous avez déjà identifié d'autres zones endémiques de l'oncocercose à travers la RDC?
Bon, je corrige d'abord, hein, je suis médecin à la SNL installé à Inga.
Ah, okay.
Je ne travaille pas au programme national de lutte contre la leucocercose.
Merci beaucoup.
Mais comme Inga, c'est le point le plus chaud de la planète en matière de nuisance de leucocercose, par la force des choses, je suis impliqué dans ce programme-là. Et donc, je travaille en collaboration avec le programme ici à Inga.
Ok. Alors, dites-nous, parce que vous êtes médecin à la SNEL et que donc c'est la cité de Inga et les villages environnants, c'est vraiment c'est sous votre main, c'est sous votre science. Quels sont est-ce que vous avez au moins une idée sur les chiffres des gens qui sont frappés par l'oncocercose là-bas?
Les chiffres, c'est difficile de les donner, mais parce qu'en fait, on n'a jamais fait d'études statistiques là-dessus. Mmh. Mais je peux vous confirmer que la maladie existe bel et bien ici à Inga. Et si on tient compte des nombres de consultations, il y a plus ou moins 10% de nos malades que nous consultons qui viennent pour l'oncocercose sous ces différentes formes, quoi, des complications cutanées ou oculaires.
Voilà, complications cutanées oculaires, c'est autant de conséquences sur les malades. À la limite, ça s'étend sur l'économique parce qu'on ne peut plus bien travailler. Quelles sont les mesures qui sont prises à votre niveau pour soigner cette maladie? Comment soignez-vous les malades?
Ici sur place, nous faisons des soins de masse, c'est-à-dire on fait des campagnes de médiatisation. Théoriquement, il faut faire ça deux fois par an. La distribution des produits qu'on appelle l'ivermectine ou mectisant, on donne ça à tout le monde à partir de 5 ans. Et on tient compte du poids. Donc cela se distribue deux fois par an. Mais compte tenu des problèmes logistiques, ça ne se fait qu'une fois par an ici. Mais l'avantage, c'est que la seule prise de mectisant pour une année diminue les taux des microfilaires dans les sangs de 90%. Donc on a plus ou moins des garanties que ceux qui prennent normalement le mectisant n'ont pas des problèmes, ne sont pas exposés à des complications de cette maladie.
Mmh. Vous avez dit le produit s'appelle Mectisan, docteur.
Mectisan ou ivermectine.
Ok, mais est-ce que vous avez peut-être observé, il faut aller à la source, non, docteur, à la source de l'agent causal, je veux dire, le maringouin en question. Est-ce que vous avez des dispositions à prendre pour attaquer le maringouin à sa source?
Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la lutte antivectorielle. C'est une lutte assez onéreuse, et d'autant plus que ça demande beaucoup de fonds. Il faut l'implication du gouvernement et d'autres instances internationales, parce que il faut ce qu'on appelle un épandage. Et pour un épandage, il faut un bateau qui est fabriqué pour cette opération-là, parce qu'il faut des grandes quantités de produits d'insecticides à déverser dans l'eau. Dans le fleuve, vous voyez un peu avec son débit important, il faut aussi une quantité importante de produits. Et tout ça, c'est des problèmes d'investissement assez onéreux.
Mm-hmm. Ouais. Docteur Kanefou, là je vais vous poser une question et en répondant, pensez aux auditeurs et particulièrement aux personnes qui peuvent être exposées dans des zones endémiques où se développe le maringouin. Quelles sont les précautions que l'on doit prendre pour ne pas se faire piquer?
Les précautions, c'est ici à Inga, je préfère vous dire d'abord que ici c'est difficile à nos filles de biper les gens parce qu'on ne peut pas porter des habits très courts. Et donc il faut prendre des bas, hein, des chaussettes, des chemises à manches longues, sinon c'est la seule façon de se protéger. Si vous ne faites pas ça, vous êtes exposé à des piqûres de moustiques.
Mais oui. Et au niveau du visage alors?
Les visages, il faut mettre des cagoules à la limite, si vous êtes d'une taille assez... Bref.
Ah, c'est ça. Vous voulez dire que les mouches, les maringouins en question, volent à basse altitude, docteur?
Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir une taille moyenne, parce que les enfants, nos enfants qui vont à l'école, on les protège comme ça, ils étouffent là-dedans, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie qu'ils sont obligés de mener ici.
Mais c'est si grave que ça, docteur? Il faut vraiment couvrir un enfant quand on l'amène à l'école?
Bon, on ne les couvre pas jusqu'à la tête parce que ça a l'air en fait de travailler, mais ils sont piqués, même si on arrive à couvrir les pieds et les mains, mais ils sont quand même piqués. Vous voyez les enfants rentrer en train de se gâter la tête, d'avoir des petits boutons, tout ça, bon, ce sont les conséquences des piqûres des maringouins.
Mmh. Donc, si on vous a bien compris, vous avez dit que pour faire la lutte antivectérienne, il faut que le gouvernement intervienne. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, à votre avis?
Le gouvernement doit pouvoir, si lui-même n'est pas en mesure de trouver les fonds, il doit pouvoir chercher des partenaires extérieurs qui peuvent financer cette opération-là, parce que les évaluations faites à ce jour pour les bateaux épandeurs s'élève pratiquement à 200 000 dollars. Ce n'est pas grand-chose pour le gouvernement peut-être, mais au regard des problèmes que le gouvernement doit résoudre, peut-être que ce n'est pas faisable pour le moment. Donc il faut se tourner vers l'extérieur, pour chez les bailleurs de fonds qui peuvent nous aider à donner et les produits et les bateaux épandeurs.
Mais qu'est-ce que les 200 000 dollars pourraient faire dans la lutte antivectorienne?
C'est pour l'achat du bateau épandeur.
Ah ah.
Ouais. Maintenant, après l'achat du bateau, il faut maintenant trouver les produits. Et cette opération doit prendre au moins 3 ans d'épandage. Vous voyez un peu les coûts.
Mm-hmm.
Hein? Parce que le produit est proportionnel au débit du fleuve. Or, le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve du monde sous le plan débit après les rios des Amazones. Donc, avec un débit de 40 000 mètres cubes par seconde. Voyez un peu la quantité de mestisants, de permethrine, parce que c'est ça les produits qu'il faut utiliser pour éradiquer tous les gîtes de Simili.
Voilà. Docteur Kanefou, je rappelle que vous êtes médecin à la SNEL au niveau de Inga. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et souhaite vous retrouver très prochainement pour d'autres précisions dans votre zone. Merci beaucoup, docteur. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Capi, il est 10h à Inga, 11h à Goma. Le bulletin d'information, Mimi Ngumba Molongo.
Mesdames, Messieurs, bonjour. En Ituri, la cité de Bounia a été secouée à 2 reprises tôt ce matin par un tremblement de terre. D'après plusieurs témoignages concordants, le premier a eu lieu à 5h06 et le deuxième à 6h15, heure de l'Est. Aucun dégât matériel n'a été enregistré, du moins pour l'instant. Ituri toujours, le chef des groupes armés s'est intégré dans les forces armées de la RDC. Annonce faite par le ministre de la Défense, Jean-Pierre Ondekane. C'était hier dimanche au cours d'une rencontre avec les autorités politico-administratives et militaires de l'Ituri au quartier général de la MONUC Bounia. Un accord tripartite RDC, Belgique et RSA sera signé aujourd'hui à Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le ministre belge de la Défense en visite à Bounia. André Flau souligne que cet accord portera sur l'accélération de la formation des autres brigades de FRDC. Et pour terminer, la situation reste calme à Minova, au sud Kivu, après l'arrivée massive de déplacés en provenance de villages voisins du nord Kivu, village où se déroulent de combats. De sources sur place à Minova signale que les derniers déplacés fuyant les combats à Burimana sont arrivés samedi dernier.
Merci. On retrouve Mimi Ngumba tout à l'heure, dans 58 minutes exactement, pour un autre point sur l'actualité. Beauté à tout prix, les vendeurs des produits cosmétiques font des très bonnes affaires. Malheureusement, certains de ces produits sont à l'hydroquinone, avec des conséquences sur la peau. Il y a des gens qu'on observe qui sont très clairs sur le visage et très sombres sur le reste du corps. On dit souvent à Kinshasa, Fantana Elongi Koka Namakolo. Sik, on en parlera tout à l'heure avec Nathalie Mouteva. Et puis, autre chose, le Fonds social de la République est en train d'apporter un appui en médicaments à une dizaine de zones de santé, dont le Maniema. Nous nous rendrons à Kindu pour parler avec notre consoeur, Mami Halili Tibangu. Voilà. Nous allons nous rendre sur un autre bout du pays, après le Bas-Congo, hein, la cité de Inga. Nous nous rendons à présent à Kindu, d'où nous apprenons que le Fonds social de la République a déjà commencé la distribution des médicaments à une dizaine des zones de santé, en tout cas au niveau de Kindu. Ce don était arrivé à Kindu depuis le mois de juin de cette année. On va avoir des détails avec Mami Halili Tibangu qui est en direct de Kindu. Mami, bonjour.
Bonjour Walter.
Pouvez-vous nous préciser sur les débuts de cette opération des distributions de médicaments?
Tout à fait, la distribution de ces médicaments arrivée depuis le mois de juin a commencé au mois de novembre dernier. et c'est les gouvernorats de la province du Maniema qui procèdent à la répartition de ces produits pharmaceutiques selon les besoins urgents de chaque zone de santé nouvellement découpée. Nous devons souligner qu'avant le découpage, ces zones servaient comme des centres de santé de référence, mais par manque d'équipements et de médicaments, après ce découpage, certaines zones de santé ne pouvaient pas vraiment fonctionner, donc ils n'étaient pas en mesure de fonctionner avec autonomie. Ainsi, pour pallier à ces blocages, au mois de novembre, le gouverneur de province du Maniema avait doté la zone de santé proche du centre-ville, celle d'Alungouli précisément, d'un groupe électrogène, d'un bidon de 20 litres d'essence et de 10 matelas. Alors ces dons étaient bien accueillis par les infirmiers et surtout les chirurgiens qui effectuaient des opérations chirurgicales moyennant une lampe tempête ou une torche comme le déclare cette infirmière.
Ah, je suis très contente parce que le gouvernement vient d'approvisionner notre centre de santé de référence à Lungul avec 10 matelas, 20 litres d'essence et un groupe électrogène de KVR. Et ça va nous aider parce que nous étions en difficulté. Ah, par exemple, le groupe électrogène va nous aider dans la salle d'op et surtout dans les cas urgents pendant la nuit et puis aussi à la maternité.
Et pourquoi seulement on vous a donné, vous, pas d'autres centres de santé?
Ah, mamie, parce que le gouverneur était de passage ici. Il avait trouvé les malades sur les lits là-bas. Et puis à la maternité, il n'y avait pas aussi de matelas complet. Et la lumière aussi là-bas manque. Et puis dans notre salle d'op, surtout les cas d'urgence, par exemple les cas de césarienne, alors il avait trouvé ses difficultés. Il était parti avec les soucis de nous aider un seul jour.
À l'évidence, cette infirmière est très satisfaite du don reçu. Mais Mamie Alélie, est-ce que vous pouvez nous dire sur base de quels critères le Fonds social de la République a sélectionné telle ou telle autre zone de santé au lieu d'un autre?
Voilà, nous devons d'abord signaler, Walter, que les témoignages de cette infirmière, ça ne concerne pas les dons du Fonds social. En fait, concerne ces dons sur ces centres de santé, c'est les dons juste du gouvernorat de province, donc à la personne du gouverneur Colosso Soumaïli, qui avait jugé bon d'appuyer d'abord ces centres de santé, premièrement, en attendant que les dons du Fonds social puissent intervenir. Les critères, c'est comme l'infirmière vient de nous soulever, il a trouvé que les malades dormaient par terre, il n'y avait pas d'électricité. Aussi, les opérations chirurgicales se faisaient la nuit moyennant des lampes des lampes tempêtes. Alors, c'est sur base de ces critères que les gouverneurs de province étaient motivés à poser ces gestes à ces centres de santé.
Mais oui, revenons aux dons du Fonds social. Comment ça se passe et comment sont sélectionnées les zones de santé?
Bon, à propos du don du Fonds social de la RDC, la distribution s'est faite en fonction des critères du besoin qui est présenté chaque zone de santé du Maniema. 10 nouvelles zones de santé seulement ont bénéficié de ces dons. Il s'agissait d'une tonne pour chaque zone et cette unique tonne de médicaments a été constituée des lits de consultation, aussi de matelas. Et quand vous ne cessez de suivre sur nos ondes, la situation est critique dans certaines zones de santé de l'intérieur de la province. C'est le cas par exemple de la zone de santé de Lubutu, de Amissi et aussi de Kabambare, comme nous témoigne l'administrateur gestionnaire de zones de santé de cette contrée.
En bref, ça peut être bien, mais ça ne remplit pas les conditions d'un hôpital comme selon aux formes. En arrivant à Kindu, je me suis réjoui lorsque j'ai appris qu'il y a les dons que les natifs ils ont envoyés. Vraiment, de mon avis, je suis très content de ces dons. Je pense que les populations, ils seront aussi très réjouis de ça parce que il n'y avait pas de matelas et comme on nous a donné quelques matelas, c'est déjà un pas d'avance. Bon, au gouvernement, selon les dires des conseillers, il m'a dit que c'était une tonne qu'on a distribuée aux 10 zones de santé.
Et cette tonne est constituée de quoi et quoi?
Ok, il y avait les médicaments essentiels ou de première nécessité, comme les gens l'ont dit. et il y a le médicament et les matelas et ainsi que les lits de consultation.
Voilà des précisions sur le kit offert à chaque zone de santé en raison d'une tonne par zone de santé. Mamie, au-delà de ce don, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres appuis peut-être similaires de la part d'autres organismes nationaux ou internationaux en structure sanitaire du Maniema? Parce que avec la description que vous en avez faite, ça inquiète quand même.
Justement, Walter, il y a eu beaucoup d'aides qui ont servi les structures sanitaires du Maniema. C'est notamment la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kindu et l'appui en médicaments par l'ONG britannique Merlin. Plusieurs dons en médicaments et les appareils de laboratoire par différents contingents de la MONUC Kindu. Donc il y a notamment les contingents indiens, les contingents chinois qui avaient apporté vraiment un grand lot de médicaments, aussi les appareils de laboratoire à cette structure sanitaire. Aussi les hôpitaux de Kibombo et la zone de santé de Kasongo bénéficient du financement de la MONUC dans le cadre de son projet Impact Rapide. Récemment aussi, pour marquer la fin du partenariat entre l'ONG Kindu Santé et l'hôpital général de référence de Kindu, il y a une remise de 12 tonnes de médicaments à cet hôpital général de référence. Donc nous pouvons conclure que les structures sanitaires de la place sont assistées, même si ce n'est pas suffisamment vu les besoins qu'elles présentent, parce que beaucoup de leurs équipements, leurs biens ont été pillés pendant les guerres. Voilà.
Bien, merci Mamie Tibango pour cette première partie d'information que tu nous as apportée. Nous allons pouvoir avoir des détails dans quelques instants avec Monsieur Juvenal Kabwende, conseiller principal du gouverneur, chef du cabinet du gouverneur à la province du Maniema, sur effectivement ce qui se passe, cette opération de distribution de médicaments et autres équipements à certaines zones de santé du Maniema. Merci beaucoup et bonne journée à Kindu.
Merci Walter, à vous également.
Okapi. Okapi à Matadi sur 102 FM.
Ok, Action, nous poursuivons le sujet de Kindu. Vous venez d'apprendre une tonne par zone de santé dans la province du Maniema. Tout cela a été acheminé pour essayer d'appuyer les centres de santé de référence au regard des difficultés du fait de la guerre, du non-fonctionnement correct et tout le reste. Les équipements et médicaments apportés donnent un ouf de soulagement. On devra avoir dans quelques instants Monsieur Juvenal Kabwende, qui est un fonctionnaire au niveau du gouvernorat. En attendant que nous puissions l'avoir, il y avait une question de Solange, une auditrice qui nous appelait de Isiro et voulait savoir c'est quoi les maringouins, c'est dans quelle langue, où est-ce qu'on les trouve. Eh bien, chère Solange, les maringouins, c'est d'abord la langue, c'est de la langue Tupi. Tupi, c'est une tribu des Indiens de l'Amérique du Sud. Donc, ils sont de cette partie-là. C'est une famille de langues indiennes d'Amérique du Sud qui parle cette langue-là. Voilà, à côté des Tupi, il y a ceux-là qu'on appelle des Guarani. Alors, c'est dans leur langue, ces Indiens qui sont en Amérique du Sud, qui disent maringouin pour désigner tout simplement un moustique, un insecte qui pique les voisins, un cousin par exemple. C'est comme ça qu'ils disent dans leur tradition. Et pour peut-être un peu d'actualité, c'est autour de Louisiane dans le Québec. Voilà, cher Solange, une partie de réponse à ta question. Où est-ce qu'on trouve les maringouins? C'est généralement dans les cours d'eau et dans un endroit où il y a des chutes, des rapides. Voilà tout pour ce qui concerne les maringouins, chère Solange. Donc tu retiens que les maringouins, c'est un mot tiré de la langue qui s'appelle le Tupi. Et les Tupi, c'est des Indiens d'Amérique du Sud. Voilà. On va se retrouver dans quelques instants en espérant pouvoir avoir nos invités pour répondre à d'autres questions, nous donner des précisions. Alors, on me dit qu'il faut parler des moustiques. On va en parler.
Okapi.
Okapi à Matadi sur 102 FM.
Okapi Action, nous n'avons pas réussi à joindre notre invité pour le sujet de Kindu. Dernière nouvelle, il doit obtenir l'autorisation de ses chefs hiérarchiques pour parler à la radio. Dommage pour nos auditeurs, nous avons loupé un invité. On va continuer, comme disait quelqu'un, Toleka, mais oui, évidemment, on passe à autre chose. Des hommes et des femmes veulent être beaux. Pour y arriver, certaines personnes qui ne se satisfont pas de leur apparence, surtout du teint de leur peau, n'hésitent pas à utiliser des produits cosmétiques de tous genres pour s'éclaircir la peau. Les commerçants l'ont compris et ils ont lancé sur le marché des produits diversifiés avec des slogans alléchants pour être encore plus belle, pour une peau pour une beauté éclatante, pour une peau douce et satinée et éclatante, et j'en passe. On met même des filles qui ont un teint naturellement bien, qui ont un teint clair de par leur nature, pour faire croire que c'est le produit en question qui a rendu cet éclat. Mais enfin, la beauté oui, mais à quel prix ? Mais en tout cas, ils le font à tout prix. Il peut vous arriver de constater qu'il est des personnes au teint clair au visage, et puis teint sombre sur les bras, sur les pieds, ailleurs sur le corps. Et on dit souvent Akin, Fantana Ilongiko Kanamakolo ou Namakolo, Namaboko, je ne sais pas. La plupart des produits utilisés contiennent de l'hydroquinone, et selon des scientifiques, des recherches l'ont prouvé, il y a des conséquences énormes de l'usage abusif de ces produits, surtout ceux à base d'hydroquinone. On va en parler tout à l'heure. La question vous concerne, nous touche. Il suffit de regarder maintenant autour de vous. Vous allez peut-être constater ce que j'ai dit tout à l'heure.
Okapi. En FM, sur Internet, par satellite.
Okapi.
Okapi, la radio proche de vous.
Okapi.
Si on se regarde, si nous étions à la télévision, vous auriez remarqué que je suis de teint sombre, légèrement café au lait. Bon, légèrement, mais vraiment sombre. Voilà, c'est ça ma peau. Ah, on est à la radio. Mais bon, on parle de ce sujet avec une femme. Nathalie Mouteba, bonjour.
Bonjour Alter et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Ma première question, on remarque que c'est d'abord les femmes, principalement en très grande majorité, qui aiment beaucoup les produits de beauté éclaircissants. Pourquoi Nathalie ?
Eh bien, Walter, il existe une conception qui dit que les femmes les plus prisées sont celles qui ont un teint plus clair. Je ne sais pas si c'est également votre avis, Walter.
Non,
mais...
tout de suite, non.
Mais voilà une des raisons pour lesquelles les femmes et les filles préfèrent utiliser des produits éclaircissants. Alors, nous avons posé la question à quelques-unes d'entre elles. Eh bien, on les écoute.
Pour la nuit. Pour les bébés, ça a peau. À la longue, les bébés, ça a peau. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez vitamine la peau. Si vous avez peau, vous avez un souci. Et comme un sec, vous avez un bien.
La seule langue, c'est pour le monde qui a la teinture dans la langue qui est appelée bien. Mais sous-sous, on dirait ce qui a sali par quoi l'ango, ils ont le corps comme ceux qui toko. Or que plus tard, ils ont connu au bébé sa teinture.
Et au bébé, ça en a une.
À cause de la cancer de peau, donc ma camé belle et car.
La seule langue, c'est. Pour à la longue, il paraît, mais on a vraiment. Comment dirais-je, dans la période où été, hein, dans ma peau, mais il paraît qu'à la longue, ça a la cancer, et bébé sa peau, tout ça là. Bon, d'après moi, il paraît que si on sait avoir produit un an, tout souvent, on a que peau est comme la plus propre, si on a comme la kitoko, je sais pas. Moi, hein, mingi balobane, c'est balobane, non, d'eau soigner teinture, quoi.
Voilà, on l'a entendu, une peau claire, naturelle ou pas naturelle. La question vous est posée, hein, 081-890-6890. Nous attendons vos points de vue. Il paraît que c'est nous, les hommes, qui sommes à la base de ça parce que il y a cette tendance à aimer les filles autant claires. Mais moi, je les préfère claires des natures, hein, pas surnaturelles. Enfin, une parenthèse vite refermée. Mais Nathalie, on a évoqué, on a effleuré quelques dangers avec les gens qu'on vient d'entendre. Quels sont les dangers réels qu'encourt une personne qui utilise ces produits?
Les dangers sont énormes, évidemment, mais nous avons posé la question à une pharmacienne, il s'agit de Madame Thérèse Tchitende. Elle dit que l'hydroquinone, qui se retrouve généralement dans les produits éclaircissants qu'on retrouve sur le marché ici, est un produit utilisé dans la médecine pour les cas d'inflammation au niveau de la peau ou pour un temps déterminé. Mm-hmm. C'est-à-dire comme un c'est un produit utilisé en dermatologie, en fait. Mm-hmm. Mais malheureusement, certaines maisons de fabrication de produits cosmétiques et même les consommateurs eux-mêmes en abusent. On l'écoute.
Quand il est utilisé pour les lésions de la peau, pour les dermatoses et tout ce qu'il y a comme inflammation de la peau, il est utilisé localement et pendant un temps limité. C'est bien déterminé, la dose ne doit pas dépasser, on ne doit pas l'utiliser plus de 20 jours. Mais quand il est utilisé abusivement dans les lotions, crèmes utilisées pour éclaircir la peau, et à long terme, je sais comment nos femmes utilisent les produits éclaircissants ici, ils les mettent le matin, ils les mettent le soir après s'être lavé le soir, et vous voyez, il devient à la longue toxique pour l'organisme. Et j'avertis déjà que c'est très dangereux, parce que l'hydroquinone peut agir à plusieurs niveaux des organes vitaux de l'homme. Il y a des crèmes préparées en cosmétologie pour l'usage effectivement cosmétique. Hein. Un cosmétique, ce n'est pas seulement pour éclaircir, mais c'est pour plutôt enrichir la peau, la rendre plus belle et plus vivante, quoi. Éclaircir ne signifie pas être belle. C'est un éclat d'ailleurs temporaire, parce que après. Quand elle cesse d'utiliser ces produits, et même ce n'est pas seulement les femmes, c'est une pratique qui s'est étendue même jusqu'aux hommes. Quand ils n'ont plus d'argent pour se faire éclaircir la peau, ils deviennent tout noirs, plus noirs qu'avant. Et ça, c'est désagréable.
Voilà une femme spécialiste de la question qui parle de ces dangers. Malheureusement, du constat, c'est vrai qu'il y a des hommes qui ont commencé à le faire.
Tout à fait, Walter. Les hommes aujourd'hui ne se gênent pas d'utiliser les produits éclaircissants pour... je ne sais pas ce qu'ils cherchent exactement, mais c'est vraiment pas très beau à voir. Hein.
Un commentaire de ma part, c'est qu'avec actuellement la destruction de la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets, lorsqu'on éclaircit sa peau, on sort une couche, la couche... qu'envient toutes les autres races du monde.
Oui.
Les autres races du monde envient la peau noire parce qu'elle a cette couche-là qui nous protège contre les rayons ultraviolets. Et quand vous éclaircissez la peau, vous tuez cette couche qui vous protège tout ça. Et vous verrez des gens qui ont tendance à avoir toujours un parasol à tout moment parce qu'ils ont perdu cette matière qui est dans la peau. Mm-hmm. Notamment, les albinos n'ont pas cette matière-là. Mm-hmm. Nous l'avons de par la nature quand on a la peau noire, telle qu'elle est là. Mm-hmm. Et quand vous éclaircissez la peau, vous perdre ça. C'était un commentaire vu du point de vue de l'écologie, vu du point de vue de l'environnement. Mais Nathalie Moutéba, si Madame Thérèse a soulevé tous ces dangers qui surviennent lorsqu'on abuse de tous ces produits-là et que les recherches aujourd'hui prouvent à suffisance qu'il y a des sérieux problèmes de santé, c'est une question de santé publique, la réglementation de l'utilisation de ces produits à l'hydroquinone. Quel est le rôle des institutions concernées qui doivent décider ou réglementer cette affaire?
Oui, Walter, nous n'avons pas pu entrer en contact avec les responsables du ministère de la Santé, mais par contre, nous avons été au niveau de la Haute Autorité de Médias, qui est en fait l'organe par excellence de régulation des médias, et surtout parce que, comme vous le savez, les produits, ou bien les fabricants, utilisent un canal pour faire passer leur message, qui est la publicité. Mmh. Et donc, nous nous sommes rendus auprès de la Haute Autorité de Médias, où nous avons rencontré M. Joseph Nkachama, le conseiller politique et administratif de la Haute Autorité des Médias, qui nous donne ici sa réponse.
La sonnette d'alarme avait été tirée par des auditeurs, téléspectateurs qui ont contacté la Haute Autorité de Médias sur la nocivité de ce produit. Et la Haute Autorité des Médias est intervenue directement en invitant les fabricants et les distributeurs de ces produits à une séance de travail au mois de mars 2004.
Et qu'en est-il sorti de cette rencontre?
Nous avons donné un moratoire aux fabricants, aux distributeurs de produits qui contiennent des matières éclaircissantes, de liquider leur stock et de ne plus fabriquer ces produits.
Et alors, est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que cela a été exécuté?
D'après les informations qui nous sont parvenues, certains produits ne sont plus commercialisés, mais d'autres, par contre, continuent à être écoulés sur le marché. Nous allons appliquer la loi dans toute sa rigueur. C'est-à-dire que certaines dispositions de notre loi organique nous donnent le pouvoir de frapper les entreprises, les personnes physiques ou morales qui vont à l'encontre de la santé morale ou physique de certaines personnes, surtout de personnes vulnérables. Et surtout, les médias qui font la propagande, la publicité de ce produit nocif.
Voilà, Monsieur Kachama, il est lui plutôt conseiller politique administratif de la Haute Autorité des Médias qui a donné sa réponse par rapport à l'aspect publicitaire, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a un tapage publicitaire sur les valeurs des produits éclaircissants, au point que... par moment, on disait que la personne qui n'est pas claire de teint ne fêtera pas la bonne année à un certain moment. En Lingala, fin des citations. Nathalie Mouteba a rigolé. Mais il faut reconnaître que on a essayé, on va continuer à le faire, de joindre un représentant de l'Office congolais de contrôle, OCC, qui ont obligation de rechercher la qualité de certains produits.
Écoutez, nous avons justement contacté quelqu'un de l'OCC qui nous dira... que l'OCC, en principe, du moment où, au niveau du ministère de la Santé, on ne leur dit pas que c'est mauvais, ils peuvent pas décider, ils peuvent pas dire que non, tel produit n'entrera pas ou bien tel produit ne devra pas être consommé. Parce que selon eux, l'hydroquinone est un produit, c'est un médicament, c'est un produit utilisé en médecine. Et si... elle a des effets nocifs sur la peau de nos sœurs ou de nos frères, ça n'a rien à voir avec le CC, c'est plutôt les consommateurs qui en abusent. Donc c'est un peu ça.
Il y a le ministère de la Santé, il y a l'OCC et l'Union des consommateurs congolais. On va essayer de les mettre ensemble autour de cette question parce qu'il y va de la santé des uns et des autres. Parce que ce qu'on peut constater, ça c'est en regard de journalistes qui voient, c'est que des gens qui ont abusé de ces produits, ils ont des grosses taches sur la peau qui ne peuvent plus disparaître.
Énorme. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai également tenté de parler avec une dame. Je vous assure, si vous la voyez, c'est horrible. Cette femme ne sort plus. Elle ne peut même pas aller se promener parce qu'elle est noire. Quand je dis noire, c'est qu'elle est vraiment noire, uniquement sur son visage et une portion de son visage, c'est-à-dire il y a ses joues, il y a son front et une partie de son menton qui sont noires. Et ce n'est pas noir parce que c'est la peau, non. Mais en fait, vous voyez bien que c'est une espèce de...
Un noir brûlé, quelque chose de brûlé.
Voilà. Conséquence des produits cosmétiques à base d'hydroquinone. Abusive, enfin utilisé de manière très très abusive.
Il y va de la santé des utilisateurs, c'est la sonnette d'alarme qui a été lancée. Regardons autour de nous, prenons conscience de cela. Et il paraît que nous, les hommes, sommes à la base parce que les dames recherchent à briller pour nous attirer.
Pour nous attirer. Pour vous attirer. Ok, d'accord.
Nathalie, enfin. Donc, c'est pas la morale que nous faisons, mais nous voyons l'aspect santé de l'abus de l'utilisation de l'hydroquinone, santé ou maladie, à votre choix. Vous êtes libre. Merci Nathalie. Des réactions, des suggestions, faites les 081 890 68 90. On a le choix entre la beauté et la santé. À quel prix? C'est ça que nous voulons. On ne vous fait pas de la morale, mais on informe. Ce sont les dermatologues qui nous l'ont dit aussi. Bonne journée, Nathalie.
Bonne journée à vous.
Je précise en passant que Nathalie n'utilise pas les produits à l'hydroquinone. Elle a un noir café au lait assez beau, franchement.
Merci.
À bientôt.
Okapi.
Okapi à Matadi sur 102 FM.
Au Capi Action, nous sommes dans la dernière partie du magazine d'aujourd'hui et nous parlons de la beauté. Les produits cosmétiques à l'hydroquinone sont nocifs à la santé. C'est ce que nous avons appris des spécialistes de la question. Parce que le sujet qui nous concerne, c'est en fait ce constat fait que des hommes et des femmes veulent être tous beaux. Et pour y arriver, certaines personnes qui ne se satisfont pas de leur apparence n'hésitent pas à utiliser des produits cosmétiques de tout genre. Mais pas n'importe quel produit, la médecine ou les chercheurs tire la sonnette d'alarme. Les produits cosmétiques à l'hydroquinone sont nocifs à la santé. Alors, beauté à tout prix, santé ou maladie, à votre choix. Pour commenter cela, nous avons Dr Mbouya en ligne. Dr Mbouya, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue. Est-ce que vous confirmez que les produits cosmétiques à l'hydroquinone sont nocifs à la santé?
Oui, effectivement, les produits à l'hydroquinone, à base d'hydroquinone, sont vraiment nocifs à la santé. Effectivement, il n'y a pas que les produits à base d'hydroquinone, il y a aussi les produits à base mercurielle, comme les savons Mekako et autres, et les produits à base de dermocorticoïdes, comme le diprozone et autres. Tous ces produits-là sont vraiment nocifs à la santé.
Mais comment trouvez-vous le fait qu'aujourd'hui, d'abord on a fait une publicité tapageuse dans les médias et que selon certaines réponses que nous avons obtenues pendant nos enquêtes, l'Office congolais de contrôle, l'OCC, ne peut pas retirer la circulation des produits que le ministère de la Santé n'a pas officiellement déclaré nocifs à la santé?
Oui, ça c'est vraiment un problème dans notre pays, parce qu'ailleurs on a déjà interdit, mais ici chez nous, bon, comme on ne sait pas tout contrôler, parce qu'il y a certains produits qu'on fait entrer dans le pays par voie fluviale, bon, ça que ça passe par l'OCC, il y a d'autres par voie aérienne, donc il y a plusieurs voies d'entrée, donc c'est difficile aussi pour l'OCC de contrôler. Bon, même si il y a certains produits que l'OCC parvient à contrôler, mais pas. Jusque-là, il n'y a pas vraiment une rigueur dans ce sens pour qu'on interdise une fois pour tous, pour toutes.
Docteur Mbouya, on dit que donc c'est nocif à la santé. Quelles sont les conséquences au point de vue de la santé de l'utilisation de ces genres de produits?
Vraiment, les conséquences, il y en a autant. D'abord pour le produit qui sont à base d'hydroquinone. Effectivement, les effets ne sont pas directement, les effets ne sont pas, on ne peut pas les observer directement. Bon, c'est souvent à long terme. Oui, voilà. C'est à long terme qu'on aura soit, vous pouvez voir sur le visage de femmes qui ont l'habitude d'utiliser ces produits, des plaques sombres. Hein? Mm-hmm. Bon, c'est ce que nous appelons, l'ochronose. Mm-hmm. Hein? Ces plaques-là, noires-là, qui sont au visage. Mm-hmm. Oui. Bon, quant aux autres produits là, comme les dermocorticoïdes là, ça cause vraiment des dégâts énormes. Il y a d'abord cette hyperpigmentation là, ce teint là sombre là qu'on remarque. À part ça, il y a les vergetures qui sont vraiment visibles et qu'on ne sait pas réparer. Hein? À part ça, il y a la peau est vraiment exposée à beaucoup d'infections. Hein? Et même le produit à base mercurielle, bon, ça aussi, ça a un effet, et ça a des effets, ça a des complications plus tard, à long terme. Comme par exemple, on peut avoir au niveau de ces cellules-là, le mercure-là, ça se pose au niveau des cellules nerveuses et ça peut donner beaucoup de problèmes neurologiques. Et ça peut se poser aussi au niveau des cellules rénales. Et quelqu'un peut souffrir comme ça d'une insuffisance rénale. Donc ça a beaucoup d'effets.
Mais comment, à votre avis, vous qui êtes dermatologue, disons en passant que nous ne vous attendons pas beaucoup sur les médias pour attirer l'attention des uns et des autres sur des dangers sur la peau. On trouve que bon, les apposos, c'est pas si grave, on parle plutôt d'autres choses. Qu'est-ce qui peut être fait à votre niveau pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas bien d'utiliser ce genre de produits?
Vous savez, ces dossiers-là, c'est vraiment complexe. Parce que la plupart, d'abord, des expatriés qui ont leur boutique ou magasin en ville, bon, pratiquement comme article qu'ils ont, ce sont ces genres de produits.
Oui, principalement, et,
oui. Oui, ce sont ces produits-là qui leur apportent beaucoup d'argent. Bon, si on interdisait ça comme ça, bon, ces magasins-là, peut-être, ils pourront fermer. Et même, il y aura beaucoup de nos compatriotes qui vont manquer de l'emploi. Donc, c'est le chômage qui va aussi être augmenté. Bon, donc c'est un sujet complexe, peut-être. Hein, il faudra peut-être écrire sur chaque une étiquette sur chaque produit, hein, sur chaque emballage que c'est, vous utilisez. Oui, bien, mais c'est un produit nocif à la santé, que la personne elle-même puisse s'engager en bonne et due forme.
Comme sur les paquets de cigarettes, docteur.
Oui, comme on a fait avec la cigarette, je crois que ça serait la meilleure solution.
Mais docteur, quand on constate qu'il y a une sorte de mentalité, si on apparemment inscrit dans la psychologie, on l'a entendu tout à l'heure, il y a des femmes on observe qu'il paraît que certains hommes préfèrent les femmes au teint clair.
Oui, bon, c'est peut-être dû... à la colonisation, parce que dans le temps la femme blanche, c'est elle qui avait plus de valeur par rapport à la femme noire. Alors pour se valoriser un peu, les femmes ont préféré aussi se rendre belles, s'éclaircir la peau pour ressembler un peu à leurs collègues blanches. Je crois que c'est peut-être dans ce sens-là qui les a motivés aussi à appliquer. Mais nous remarquons actuellement que ce n'est pas seulement l'apanage de la femme noire. Même les hommes aussi font ça. Je ne sais pas dans quel but ils le font.
Donc il y a quand même cette mentalité, on veut s'échanger le teint de la peau en s'exposant à autant de risques que vous avez soulevé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la publicité dont on a fait quand même, parce qu'on a entendu quelqu'un de la haute autorité des médias dire qu'ils vont appliquer la loi à ce niveau, c'est-à-dire interdire la publicité. Est-ce que vous pensez que c'est une mesure suffisante?
Oui, parce que, prenons l'exemple de notre pays, le Congo, à Kinshasa par exemple. La population suit attentivement ces publicités. Donc, vraiment, la publicité, ces panneaux publicitaires ont vraiment de l'influence sur la population congolaise. Je pense que c'est vraiment à interdire. Si on interdisait, ça serait vraiment une bonne chose. Peut-être on pourra réduire le nombre des utilisateurs.
Mais ce qu'on peut retenir de vous, docteur, c'est que l'utilisation de tous ces produits, c'est nocif à la santé, mais il paraît quand même que l'hydroquinone, pour parler de ça, c'est un médicament. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut l'utiliser, on peut des vues, si vous voulez, thérapeutiques dans la médecine?
Oui, il y a par exemple certaines maladies comme les phyllides, comme... les masques de grossesse, par exemple. Des fois, on utilise l'hydroquinone, les produits à base d'hydroquinone pour éclaircir un peu.
C'est sur ordonnance?
Oui.
Exclusivement sur ordonnance médicale?
Oui, sur ordonnance médicale, nous les prescrivons, mais ce n'est pas un usage continuel, non. Pour un temps, vous utilisez pour un temps et pour vous arrêter. Bon, ce qui cause des dégâts, ce n'est pas l'usage de ce genre, non. C'est quand vous utilisez ce produit-là pendant longtemps.
Voilà. Docteur Mbouya, ce qu'on peut retenir, c'est que les produits cosmétiques à l'hydroquinone sont nocifs à la santé. Beauté à tout prix, on peut dire santé ou maladie à votre choix.
Je voulais aussi ajouter que effectivement, l'hydroquinone, dosé à 2%, ce n'est pas tellement nocif.
Ah.
Hein, dans l'immédiat. Hein? Oui. Mais l'hydroquinone, souvent les produits qu'on nous vend ici, le pourcentage, c'est au-delà de 2%.
Voilà, donc on va poursuivre nos enquêtes. Pour l'instant, on vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre science avec nos auditeurs. Bonne journée, docteur.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Okapi Action, okay. C'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe s'est réjouie de votre attention et vous donne rendez-vous demain à 9h de Kinshasa.